Franny avançait, son vélo à la main. Elle marchait d'un pas décidé. Dans sa tête, les mêmes mots virevoltaient, écrenant une ritournelle acide. Ce n'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas grave, ça n'a aucune importance. On ne meurt pas de ça. On se lave et on oublie, c'est tout. L'adolescente calqua son allure sur le rythme de la comptine. Alors, t'en as pris un sacré coup, on dirait. La voix était venue de nulle part. Il ne fallut qu'un dixième de seconde à Franny pour comprendre que sa sœur était de retour. « Tu n'existes plus, » souffla-t-elle. « Je t'ai nommé, je t'ai chassé. Selon le rituel, je t'ai réglé ton compte. »« Tu rêves ou quoi ?» répliqua le fantôme. « Quel rituel ? Tu y as donc cru à ce bobard ? Alors, raconte, c'était comment ?»« Ce n'est pas grave. » Ça n'a pas d'importance. Ça arrivait tout le temps aux femmes des pionniers. Inutile de revenir là-dessus. Je vais devenir une adulte. Je vais oublier. Ça fait ça aux adultes. Ils oublient. C'est leur super pouvoir à eux. Ce n'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. Ouais, ricana sa sœur. Que tu dis ? Déjà que tu étais à moitié cinglée, en plus tu vas devenir frigide. Va-t'en. Je ne veux plus t'entendre. Jamais. Franny se retrouva devant la barrière de la mère Chénier. Elle ouvrit la grille, glissa la bicyclette dans le jardin et se dirigea vers la maison. Elle entra sans frapper. La pièce était vide. « Approche donc, puisque tu es venue jusqu'ici. » Les paroles venaient d'une toute petite pièce que Franny avait prise pour un placard lors de ses précédentes visites. La jeune fille passa la porte basse et se retrouva au pied du lit de la vieille femme. Celle-ci était couchée, malade sans doute, mais Franny ne s'en soucia guère. Elle n'avait Dieu que pour la couverture. Un kilt. Le motif central était semblable à celui qu'elle avait contemplé au petit musée folklorique. Une feuille rouge. La mère Chénier se redressa. Elle semblait différente des autres jours, comme démaquillée. Fran ne trouva pas d'autre comparaison. « Peter le rouquin a toujours été un imbécile, » énonça la vieille, « un sale petit bouc précoce. Depuis la lucarne de mon grenier, j'ai vu qu'il t'avait bien arrangé, lui et sa bande. »« Vous avez tout vu et vous n'avez rien fait pour m'aider ?» murmura Franz sans éprouver la moindre surprise. « T'aider ? Mais pourquoi donc ?» s'étonna la paysanne. Franny attendit. La Chénier se redressa péniblement, handicapée par ses rhumatismes. « Pourquoi t'aurais-je aidé ?» reprit-elle. « Tu mérites d'être puni, même par un imbécile. Toi et ta descendance, vous êtes maudite. Vous paierez l'addition laissée par vos parents. » D'un geste mécanique, la Chénier lissait la feuille rouge brodée sur le kilt. Franny eut soudain la certitude que la vérité s'étalait là, sous ses yeux, aussi évidente que cette couverture aux couleurs criardes. « C'est à cause de ce kilt, n'est-ce pas ? Fit-elle avec lassitude. Tu fais des progrès, on dirait, ricana la Chazame. Tu as vu la même au musée, n'est-ce pas? Un couvre-lit portant un motif identique. Je l'ai compris à ton regard quand tu as passé le seuil tout à l'heure. Oui, confirma Fran. Le guide racontait que ces kilts étaient fabriqués par une communauté de sorcières. Des femmes qui ramassaient des herbes magiques, elles sont mortes dans un incendie. Leurs herbes sèches ont pris feu un soir d'orage. « Non !» coupa la vieille femme. « Le feu n'a pas pris tout seul. Mais c'est sûr qu'en général, les gens de Purgatory préfèrent la version de l'accident. » La Chénier se tenait droite, raide au pied de la couche. « Qui aurait fait ça alors ?» s'enquit l'adolescente. « Je vais te montrer quelque chose, » répondit la paysanne en dégrafant sa robe. Ce sera plus instructif que la visite du musée municipal. Le dernier bouton défait, le vêtement tomba. En dessous, la vieille était nue. Son corps affaissé par l'âge n'était qu'un tissu de cicatrices rétractiles. Fran eut l'impression de contempler l'anatomie d'une créature extraterrestre. « Tu vois, chuchota-t-elle, j'ai brûlé avec les autres, ce soir-là. C'est un miracle si j'ai pu ramper hors des décombres. J'avais 14 ans. Ma mère et ma sœur n'ont pas eu cette chance. » Lentement, elle se rhabilla. S'approchant de Franny, elle appuya ses mains sur la table, faisant porter tout le poids de son torse sur ses paumes calleuses. Légèrement penchée, elle fixait la jeune fille de ses yeux de lézard. « C'est ton père qui a mis le feu, » dit-elle enfin. À l'époque, c'était quelqu'un dans le genre de Peter Punkin, tu vois. Il nous harcelait, lui et ses copains. Il ne supportait pas notre différence. Des femmes qui avaient choisi de se passer d'hommes, tu te rends compte? C'était tellement contre nature. Elle se tut. Franny, muette, avait plissé les paupières, examinant la chenille comme si elle la découvrait pour la première fois. Lui et la bande de crétins bien pensants, reprit la vieille femme. Ils sont venus, un soir, pour nous détruire. Ils disaient que nous étions des avorteuses, des lesbiennes venues débaucher les fillettes de Purgatory. Mais, comme ils ne disposaient d'aucun recours légal contre la libre communauté, ils ont tout détruit. Ils voulaient vous faire peur, c'est tout, lâcha Franny sans conviction. Non, ils voulaient plus que ça. Ils ont atteint leur but, détruire toutes les femmes. Une seule a échappé à leur folie, moi. Après l'incendie, j'ai été recueillie par un paysan de Malastru. Il m'a soignée avant de faire de moi sa putain. Ça a duré des années. Il m'expliquait que j'avais de la chance que quelqu'un accepte encore de me faire l'amour avec toutes les cicatrices dont j'étais barbouillée. Il se voyait comme une sorte de bienfaiteur. Il me prenait dans l'obscurité pour ne pas voir mon corps. Il ne me touchait jamais, ou alors en gardant ses gants de garçon vaché. Vous l'avez empoisonné? Je les ai tous empoisonnés. Tous ceux de Malastru. Les hommes principalement qui venaient quand mon patron faisait des dettes de jeu. J'avais 16 ans, je connaissais les herbes. C'était facile. Après, je suis descendue me placer dans la vallée. Je voulais mettre la main sur ton père, mais il avait fichu le camp à l'armée sans demander son reste. J'ai attendu, attendu. Il n'est jamais revenu, même après la mort de ses parents, même après que j'ai liquidé ses complices l'un après l'autre. C'est pour ça que j'ai loué la bicoque d'en face, pour pouvoir le surveiller. J'aurais pu me lancer à sa recherche, mais c'était trop loin. Et puis, la ville, ce n'est pas mon territoire. Je n'aurais pas pu l'affronter là-bas. Il n'aurait pas eu de mal à me vaincre. Non, il fallait que ça se passe ici. Quand vous êtes enfin revenu, j'ai su que l'heure avait sonné. Franny avait l'impression d'étouffer. Alors qu'elle cherchait un appui, elle aperçut le porte-plume du pacte posé sur le rebord de la cheminée. Un doute horrible la submergea. « Mais vous êtes tout de même sorcière, non ?» La chenille éclata d'un rire impitoyable. « Non, mais toi tu es une sacrée imbécile, oui. »« Vous avez des pouvoirs ?» protesta Fran. « Vous avez convoqué les puissances infernales. C'est parce que j'ai piqué la photo de mon père qu'il s'est fait attaquer par les guêpes. » La vieille hocha la tête. « Je n'y peux rien si tu crois tout ce qu'on te dit, » soupira-t-elle. « Je n'ai eu aucun mal à te persuader que ton père avait envie de toi. » Un pauvre type si coincé qu'il osait à peine se toucher quand il allait pisser. Alors te sauter, tu imagines un peu? Tu as si bien tout avalé que c'en était presque trop facile. Quant à la sorcellerie, c'est toi qui en as parlé la première. Tu m'en as donné l'idée. Mais les guêpes? J'ai jeté le nid dans le jardin au pied de ton père, un après-midi que tu étais sorti. J'avais enfilé une combinaison d'apiculteurs, je ne risquais rien. Je savais où dénicher un essaim, j'ai l'habitude. Ça m'a fait sacrément plaisir de le voir danser sous les piqûres. Qu'il était drôle. Ce n'est pas vrai, bredouilla Fran. Je vous faisais confiance. Vous mentez. Non, et tu le sais bien. Je me suis vengée de ton père. Tu en as fait les frais, c'est tout. C'est tellement facile de te berner. Tu n'as pas toute ta tête, c'est évident. Taisez-vous, je crois entendre ma sœur. Tiens, elle est revenue celle-là. Je croyais que les forces t'en avaient débarrassé. Tu vois bien que je n'ai jamais eu le moindre pouvoir. Les photos, c'est encore moi. J'ai prévenu Peter Punky du petit numéro auquel tu allais te livrer. Je lui ai recommandé de prendre son appareil qui développe tout seul et de faire bon usage des clichés. C'était ta punition. Au début, je voulais te tuer, toi aussi. Mais tu es décidément trop bête. Tu as fini par m'attendrir. C'est ce qui t'a sauvé la vie. Maintenant que je t'ai endurci, je crois qu'on pourrait s'entendre. Veux-tu devenir mon apprenti? J'ai des tas de choses à t'apprendre. Allez, ne fais pas cette tête. Tu sais bien que tu avais besoin d'être déniaisé. C'est un service que je t'ai rendu. En ce moment, tu te retrouves au même point de départ que moi après l'incendie. Les brûlures en moins, ce qui est un atout maître. Tu as eu un peu mal, soit, mais ça fait partie de toute initiation. Si tu le voulais, je pourrais devenir une sorte de grand-mère. Une grand-mère qui t'apprendrait à te défendre mieux que ne le fera jamais ton idiote de mère. Réfléchis. Je t'ai permis de te défaire de ton ancienne peau. Tu es quelqu'un d'autre à présent. Quelqu'un de fort, de dangereux. Tu devrais m'en remercier. Pense à ce qui va se passer quand tu seras de retour chez toi. Si ta mère te met chez les fous, tu n'en sortiras jamais. Tu dois te débarrasser d'elle avant qu'elle ne fasse cette démarche. Si elle meurt avant que tu sois interné, tu seras considéré comme une orpheline normale. Comprends-tu? Tu n'auras pas longtemps à attendre avant d'être majeur. Elle est ton ennemie maintenant. Elle veut refaire sa vie et tu l'encombres. Tu es un témoin gênant. Laisse-moi m'en occuper. Tu veux bien? Ce sera facile d'organiser un autre accident. Elle est saoule du matin au soir. Je m'en chargerai. Tu n'auras à t'occuper de rien. Tu veux, dis? Tu vas hériter de tous leurs biens. Tu vas devenir riche. Dès que tu auras atteint ta majorité, tu reviendras me chercher et tu m'installeras dans la maison de ton père. Ce sera ton tour de t'occuper de moi. Tu me feras une belle vieillesse pour me payer des services que je t'aurai rendus. Qu'en penses-tu, hein? Nous sommes pareils toutes les deux. Nous sommes marqués par le crime, le sang et la folie. Tes parents étaient des étrangers pour toi, tu le sais bien. Il n'y a que moi qui puisse te comprendre. Tu n'as qu'un mot à dire et je tue ta mère. Je suis ta seule vraie famille. Et si tu devais avoir une sœur aînée, ce serait moi. Ce qui suivit, Franny n'en conserva jamais aucun souvenir. Quand elle reprit conscience, elle tenait dans les mains le fusil de la chenille. L'air empestait la poudre brûlée et la vieille gisait en travers de la table, là où la décharge l'avait foudroyée. Franny sortit de la maison tout en remplissant ses poches avec les cartouches trouvées dans le tiroir. Le monde n'existait plus. Elle s'élança sur le chemin menant au village. Ce n'est pas grave, répétait-elle. C'était juste une vieille bête nuisible qui avait la rage. Il fallait s'en débarrasser avant qu'elle ne morde tout le monde. La tête lui tournait. La migraine lui donnait envie de hurler, mais elle n'éprouvait aucune fatigue. Seul le poids du fusil au bout de son bras était bien réel, rassurant. Elle trouva Peter le rouquin près de la station-service Texaco. Il n'était pas seul, il bavardait avec le pompiste, il lui tournait le dos. Franny s'arrêta. Peter se retourna et l'aperçut. Curieusement, il ne chercha pas à prendre la fuite. Bien au contraire, il alla à sa rencontre, les mains écartées en signe d'apaisement. La décharge lui fit éclater la tête avant qu'il ait pu prononcer un seul mot. Quand il tomba sur le sol, Franz se fit la réflexion que son crâne ressemblait bel et bien à une citrouille éclatée. Du coin de l'œil, Franny devina une certaine agitation autour d'elle. Elle s'en moquait, elle les cherchait, il en restait trois. Il fallait qu'elle les trouve. Le deuxième se présenta de lui-même. Il avait entendu le coup de feu. Il se précipita vers elle. Il hurlait, mais ses cris se perdirent dans le vacarme général. La balle lui déchira l'épaule, il tomba évanoui. Deux ombres se rapprochèrent de l'adolescente. Le silence était revenu. Franz se réveilla, étonné de se trouver là. Elle regarda l'arme, les corps étendus. elle identifia enfin les deux personnes qui venaient à sa rencontre. Il s'agissait du shérif et de son adjoint. Elle dirigea le fusil vers eux parce qu'elle avait vu des scènes de ce genre dans les films à la télé. L'adjoint dégaina, mais avant qu'il ait pu la mettre en joue, le shérif rabattit son bras vers le sol. « Elle n'a plus de munitions, dit-il. Elle est inoffensive. » Le shérif franchit au ralenti les 6 mètres qui les séparaient de l'adolescente, puis saisit le fusil délicatement. Il parlait d'une voix douce. C'était reposant après tout ce bruit. Franny lâcha l'arme. Plus tard, le shérif raconta à qui voulait l'entendre qu'il avait vu la lucidité succéder à la folie dans les yeux de la pauvre fille. Cette métamorphose s'était opérée en une fraction de seconde, mais, assurait-il, l'espace d'un battement de paupières, il avait eu l'étrange sensation de voir 2 personnalités distinctes habiter le même corps. 2 filles qui se succéderaient derrière la même fenêtre, concluait-il. 2 filles qui se ressemblent sans être tout à fait pareilles. L'une plus âgée, 2 sœurs, l'aînée et la cadette. Franny avait passé la blouse et le pantalon de l'hôpital psychiatrique. Les experts l'avaient déclarée irresponsable et le témoignage du conseiller pédagogique de son école n'avait eu aucun mal à convaincre la cour que la place de cette meurtrière de 14 ans se trouvait parmi les aliénés dangereux. Ici, les gardiens avaient des blouses d'infirmiers en guise d'uniforme et la prison ressemblait à un hôpital. C'était propre, ça sentait bon le désinfectant et Fran ne se plaignait pas. On lui donnait des médicaments contre la migraine, c'était bien. Elle les avalait docilement, sachant que c'était le seul moyen d'empêcher sa sœur de pousser dans sa tête et de lui faire exploser la boîte crânienne. Car la passagère clandestine tenait plus que jamais à s'évader, maintenant qu'il devenait évident que Franny ne recouvrerait jamais la liberté. Elle le lui avait clairement annoncé dès leur première nuit d'incarcération. « Ma vieille, je préfère te le dire, je ne resterai pas là 1 minute de plus. J'ai décidé de reprendre ma croissance et de sortir de ta sale petite caboche. Je vais grandir, grandir, comme un poussin dans sa coquille. Et quand ton crâne sera devenu trop étroit pour moi, je le ferai éclater à coups de pied. Alors à moi la liberté. Finalement, tu n'es qu'un œuf. Je vais me nourrir de toi et m'en aller. Personne ne me retiendra. Je n'ai tué personne, moi. » Fran n'avait même pas pris la peine de lui répondre. Elle savait que les médicaments seraient les plus forts. Sa sœur allait se rendormir, ce n'était qu'une question de temps, et de pilules docilement avalées. Elle était là depuis 3 semaines quand une fille plus âgée lui emboîta le pas lors d'une promenade surveillée. La pensionnaire s'approcha de Franny pour murmurer la bouche en coin à la façon des taulards. « Alors, c'est toi la sorcière ?» Fran fit un pas en arrière. « Cool !» murmura son interlocutrice. « Je m'appelle Jessica. J'ai rien contre toi. Je ne suis pas une saloperie de toubib. Regarde, on a la même tenue. » Elle marqua un temps d'arrêt. Franny la dévisageait sans ciller. Jessica s'assura que personne n'était à portée de voix avant de continuer. « Combien tu prends pour jeter un sort ?» Fran lui tourna le dos. D'où elle se tenait, on pouvait distinguer au loin les derniers étages des gratte-ciel. « 2 paquets de clopes et un shampoing aux œufs, » répondit l'adolescente sans se retourner. « Ça marche. » Jessica sortit 2 paquets de cigarettes de dessous ses vêtements, déposa l'offrande aux pieds de Franny et dit « Pour le shampoing, aucun problème, tu l'as ce soir. » Épilogue. Franny Monroe mourut 6 mois après son incarcération. Ses migraines étaient devenues intolérables et ne régressaient devant aucun traitement. On les déclara d'origine somatique. Une nuit, pourtant, la jeune fille succomba à une rupture d'anévrisme cérébral, communément désignée sous le nom d'embolie. Au terme de l'autopsie, Le léger nota la présence d'un dépôt sanguin sur la matière grise, un hématome résultant de l'hémorragie. Ce tatouage brunâtre avait la forme d'une petite silhouette féminine. Il jugea la chose si singulière qu'il éprouva le besoin de la photographier.